Alors, une des raisons pour lesquelles ils sont capables d'opérer au Kenya, c'est que depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis la fameuse attaque du mall de Westgate, du supermarché de Westgate, on a découvert en fait qu'il y avait un certain nombre d'infiltrations et d'implantations des Chebabs sur le territoire kényan, et que en fait cette organisation, qui initialement est une organisation djihadiste basée en Somalie et principalement somalienne puisqu'elle est issue d'un mouvement ultranationaliste somalien, a été capable de se redéployer par une politique d'exportation de la guerre, mais aussi de manière assez souterraine, sur le territoire kényan et en particulier auprès de populations vulnérables. Alors c'est ainsi qu'effectivement on a découvert qu'il y avait des cellules dormantes d'Al-Shabaab à Garissa, à Mandera, mais aussi immédiatement après l'attaque de Westgate en 2013 dans le quartier de Isli, qui se trouve au cœur de Nairobi.
Est-ce que les forces de sécurité kényanes ont pris la mesure de cette menace intérieure des Chababs?
Jusqu'à une période récente, on pouvait se poser un certain nombre de questions sur la capacité des forces de sécurité kényanes à réagir aux incursions des Chebabs sur le territoire kényan, en particulier le long de la frontière avec la Somalie, mais dans la région de Garissa. En fait, depuis les événements de Garissa, il y a eu des renforts de troupes qui ont été envoyés sur place. En même temps, on a assez peu d'informations sur les troupes qui sont effectivement déployées au sol le long de la frontière somalienne. Ce qui est certain, c'est que on a des incursions qui se font de manière très différente. Les Chebabs ne sont plus dans une logique de massacre de masse des populations kényanes, ce qui avait été un peu la logique après 2013, après l'attentat de Westgate et l'attentat de Garissa. Mais probablement que ça a joué un petit peu sur leur image en Somalie. Et donc actuellement, ils ont plutôt tendance à effectuer des incursions en territoire kényan. Les cibles sont à nouveau des cibles qui sont celles des représentants de l'État, vers plutôt la police et plutôt l'armée.
Comment vous expliquez finalement que ce mouvement, malgré la mort de ses chefs, parfois très importants, arrive à se régénérer et arrive à perdurer dans le temps?
Le mouvement Chebab, c'est une organisation qui au départ, mélange une organisation de type clanique, c'est-à-dire qu'on a en fait au départ en Somalie des sociétés qui sont des sociétés pastorales organisées sur une base clanique. Et en fait, les chefs de guerre ou les leaders des Chebab, pour un certain nombre dans le passé, ont été liés à Al-Qaïda, en particulier à Al-Qaïda au Yémen, mais un certain nombre de leaders Chebab sont des chefs de guerre issus de l'Union des tribunaux islamiques et en fait qui font simplement régner la terreur et qui ont été éduqués en même temps dans une situation de guerre civile qui dure depuis plus de 20 ans maintenant en Somalie. En fait, on a là une capacité de régénérescence du mouvement qui est liée, à mon avis, en partie aux conditions, à la structure sociale somalienne, mais à la structure sociale somalienne contemporaine, c'est-à-dire liée à l'expérience de la guerre depuis 20 ans. Et effectivement, ça pose un problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas, probablement pas, de possibilité de stabilisation politique dans la région tant que le conflit somalien n'aura pas été réglé.